Chapitre 78. Trois petites marches permettaient d'accéder au siège du copilote, accessoirement d'aller dans le salon situé derrière le cockpit. Personne. Ni mère, ni grand-mère, ni fillette, et pas un agresseur en vue. De l'autre côté du petit salon, la cuisine ouverte avec son coin repas était également déserte. Jane referma silencieusement la portière et pénétra dans le salon sans une hésitation, sachant qu'il est toujours préférable d'avancer vite en territoire ennemi. À ce stade, le courage ne suffit pas, et Jane était suffisamment honnête avec elle-même pour se savoir portée avant tout par une foi aveugle dans les forces de l'univers. Chaque semi-remorque qui passait sur l'autoroute faisait violemment vibrer le camping-car. À défaut d'entendre des voix, Jane percevait clairement les battements de son cœur, ainsi que le bruit sourd du flux sanguin au niveau des carotides et des jugulaires. Elle se glissa sans bruit dans les trois couloirs qui prolongeaient la cuisine. La porte de gauche, ouverte, donnait sur une salle de bain plongée dans le noir. Celle du fond, fermée, s'ouvrait sur une chambre. Un ray de lumière filtrait de la porte de droite entrebâillée. La seconde chambre. Elle ne pouvait se permettre de passer la tête normalement, au cas où les pirates de la route l'auraient entendue, et elle avança pliée en deux, visage baissé, persuadée que les amateurs auxquels elle avait affaire la viseraient à la tête, comme dans les mauvais films. Le type au crâne rasé tournait le dos à Jane, et la grand-mère, la bouche en sang, terrifiée mais vivante, se tenait recroquevillée sur elle-même dans un coin. Sandra était allongée sur le lit, les cheveux en bataille, l'œil gauche tuméfié, poignets et chevilles entravés à l'aide d'attaches en nylon. Le type au crâne rasé lui arracha son chemisier, et les boutons volèrent à travers la pièce avant de s'écraser contre la cloison. L'un d'eux fit teinter la lampe de chevet. Il était clair que ce salaud n'avait pas l'intention de violer la jeune femme sur place, il n'en avait pas le temps. Mais cela ne l'empêchait pas de prendre un peu d'avance sur son plaisir en terrorisant ses victimes. Peut-être remarqua-t-il du coin de l'œil l'expression étonnée de la grand-mère, ou bien un léger bruit attira-t-il son attention. D'une façon ou d'une autre, il se retourna et vit Jane. Il n'avait pas d'arme à la main, et sa stupeur fut telle qu'il ne chercha même pas à dégainer, laissant tout le temps à Jane de l'abattre d'une balle en pleine poitrine qui lui fit exploser le sternum. Le cœur s'arrêta instantanément, criblé d'éclats d'eau, et il s'écroula sur le lit à côté de sa victime entravée, avant d'avoir pu ressentir la souffrance qu'il méritait. Le corps glissa lentement sur le bord du matelas et s'affala sur le sol, la bouche écartée par un cri silencieux, les yeux grands ouverts sur un monde qu'il ne voyait plus. Le coup de feu, étouffé par le silencieux, ne risquait pas d'alerter le complice du mort, mais Sandra avait poussé un cri de dégoût en le voyant s'effondrer. Sans doute le pirate penserait-il qu'elle hurlait en réaction aux outrages que lui faisait subir son tortionnaire. Jane fit signe aux deux femmes de ne pas bouger, tandis que passait dans la nuit un camion plus imposant que les autres, qui fit longuement trembler le camping-car sur ses pneus. Jane vit un mouvement du coin de l'œil, et elle pivota sur elle-même, colt levée, avant de s'apercevoir qu'il s'agissait de la porte de la chambre, mue par le mouvement de balancement du véhicule. Les deux fillettes devaient se trouver dans la chambre du fond avec l'autre monstre. La porte était fermée, et il n'était pas question que Jane l'affronte en présence des petites, au risque de les blesser. Pourtant, chaque seconde qu'elle passait avec lui était un affront de plus à leur dignité, et ajoutait à une angoisse qui laisserait des cicatrices durables dans leur psychisme. Elle allait sortir de la pièce, lorsque le ravisseur survivant appela son complice.
Hé, Litvinov, il est temps de prendre la route avec ce tas de merde.
La porte, qui s'était quasiment refermée lors du passage du camion, s'écarta, et l'anglot se matérialisa sur le seuil de la chambre. Il comprit la situation en un éclair à la vue du cadavre de Litvinov, et s'éclipsa aussitôt alors que Jane faisait feu à deux reprises. S'il avait été blessé, il aurait crié, et Jane ne l'avait pas non plus tué car elle l'aurait entendu s'écrouler. Elle en déduisit qu'il allait chercher Holly et Lorraine, peut-être pour s'en servir comme bouclier humain, ou bien avec l'intention perverse de les tuer. Elle franchit la porte d'un bond plié en deux, l'arme en avant. Il était là, adossé à la porte de la chambre principale, un Glock à la main. La première balle passa bien trop haut. La suivante s'enfonça dans la cloison à 3 centimètres au-dessus de la tête de Jane, en la criblant d'écharde. Trop occupé à tenter de se réfugier dans la chambre à reculons, il n'avait pas pris le temps de viser. Jane ne pouvait pas tirer, sachant que les petites se trouvaient derrière son adversaire. Elle ne pouvait pas davantage battre en retraite, car il lui fallait les libérer. En désespoir de cause, elle se rua sur son adversaire en zigzagant d'une paroi à l'autre du couloir, à la façon d'une boule de flipper. Dérouté par cette attaque indirecte, il tira sa 3e balle au jugé en franchissant le seuil de la grande chambre. Elle se jeta sur le battant avant qu'il ait pu le refermer, les oreilles bouchées par les coups de feu. Il était plus fort qu'elle, mais Jane bénéficiait de l'effet de surprise. Elle donna dans la porte un grand coup d'épaule et vit un éclair sortir du canon du Glock, sans savoir si elle était blessée ou non. Sous l'effet de l'adrénaline, certaines personnes ignorent qu'elles sont touchées pendant 30 secondes ou plus, à condition de ne pas être blessée au torse. Elle avait réussi à le déséquilibrer et il recula sous le choc. L'essentiel pour lui à ce stade n'était pas de sauver sa peau, sachant qu'il devrait passer le reste de son existence en cavale, mais d'imiter l'exemple du roi Lear dans le dernier acte de la pièce « Tuer, 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 tuer ». Il tituba en arrière et se retourna en direction des fillettes, prêt à les massacrer en dépit de ses airs d'enfant de cœur. Jane le visa à 3 reprises et il s'écroula. Elle s'assura qu'il était mort en lui envoyant un 4e projectile en pleine poitrine, sachant à quel point le prince des ténèbres pouvait se montrer vicieux. Ses oreilles se débouchèrent au même moment et les hurlements des 2 sœurs lui vrillèrent les tympans. Les petites étaient indemnes, mais terrifiées, privées de leur innocence pour avoir croisé la route du mal, pas telle qu'on le voyait dans les films de Disney, mais telle qu'il se présentait au quotidien. Impitoyable et irrationnel, égoïste avant tout, convaincu de son pharisaïsme et de la beauté du désordre. Jane signala aux 2 femmes que Holly et Lorraine étaient saines et sauves avant de conduire les fillettes dans le coin repas où elle leur demanda de s'asseoir. Après une hésitation, elle retira son alliance et la glissa dans une poche de son jean. Elle chercha une paire de ciseaux d'une main tremblante dans les tiroirs de la cuisine. Elle s'aperçut qu'elle transpirait à grosses gouttes lorsqu'un voile de sueur traça un chemin glacé le long de sa colonne vertébrale. Elle regagna la chambre où se trouvaient la mère et la grand-mère. Elle commença par libérer la première à l'aide des ciseaux avant d'examiner les blessures de la seconde. Heureusement, elles étaient bénignes. La grand-mère remerciait inlassablement le ciel que son calvaire ait pris fin. Mais le drame était loin d'être consommé. Il restait bien des détails à régler. Et vite.